France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
En 1967, un film documentaire polonais mettait en lumière les toutes premières fouilles archéologiques réalisées dans le camp de concentration et centre de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau. Son titre, Archéologia. Durant ces 14 minutes sans parole et en noir et blanc, apparaissent à l'écran une foule d'objets banals et intimes emportés par les victimes jusque sur le pas de leur mort dans les chambres à gaz. En tout, ce sont 16 470 objets qui ont été exhumés lors de la fouille sur une parcelle de 10 mètres carrés. Mais que sont devenus ces objets et comment incarnent-ils les enjeux particulièrement sensibles soulevé par l'archéologie de la Shoah et plus globalement par l'archéologie du contemporain. Voilà quelques-unes des questions qui émergent dans un autre documentaire à voir en ce moment sur la chaîne Histoire TV intitulée Sous la Terre et que vous avez réalisé Ania Szczepanska. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne du cinéma, réalisatrice de documentaires, enseignante-chercheuse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Et bonjour Alain Schnapp. Vous êtes archéologue et historien, professeur émérite d'archéologie grecque à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes le co-auteur avec Jean-Paul Demoule du récent « Qui a peur de l'archéologie ? La France face à son passé » paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien archéologique s'inscrit dans la continuité d'une précédente émission que nous avions consacrée à l'archéologie des camps de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions allés en 2024 visiter l'exposition « Dans les camps, archéologie de l'enfermement » au Laténium, parc et musée d'archéologie de Neuchâtel-Haute-Rive en Suisse. Une exposition particulièrement intelligente et bien conçue qui mettait en lumière une grande quantité d'objets retrouvés sur les sites de différents camps de concentration ou d'extermination et qui nous éclairait non seulement sur la vie et la mort dans les camps, mais aussi sur le statut particulier de ces vestiges matériels retrouvés dans ces lieux. Et cette exposition, elle s'achevait avec la présentation de 4 petits objets retrouvés à Auschwitz-Birkenau, un dé à coudre, une boucle d'oreille, une broche en forme de rose et un tube de rouge à lèvres. Ces 4 objets ont été découverts justement lors du tournage de film que j'évoquais il y a quelques instants, Archéologia, du cinéaste polonais Andrzej Brzozowski, tourné en 1967 et dont nous allons parler. Ania Szczepanska, après cette introduction éternelle, je vais vous demander peut-être pour commencer de cette discussion de nous raconter comment vous en êtes venu à tomber sur ce film, à rencontrer ce film et à travailler dessus pendant 14 ans.
Alors quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la Pologne, j'ai fait une thèse sur le cinéma polonais à l'époque communiste et je m'intéressais aux questions de la puissance de ce cinéma dans un contexte contraint où existait une certaine censure et une idéologie. Je n'étais absolument pas spécialiste de la Shoah. Et en 2010, je terminais ma thèse et l'historienne Annette Wiewiórka m'a demandé de présenter un petit court-métrage qui s'appelait donc Archéologie, Archéologia en polonais, un petit court-métrage de 14 minutes dans le cadre d'un colloque, plus exactement d'une journée d'études qu'elle organisait avec le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Cewiński, et qui s'intitulait Le futur d'Auschwitz. Donc c'était un colloque sur la conservation, la préservation des vestiges du lieu. Et ce petit film, moi je ne le connaissais absolument pas, il avait circulé en France auprès des instituteurs et des professeurs d'histoire-géographie, c'est comme ça qu'Annette Wiewiórka l'avait vu à cette époque. Il faut rappeler qu'il y avait des échanges entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest et que des films donc circulaient. Mais de ce film on ne savait pas grand chose, même pratiquement rien à part le nom de son réalisateur, Andrzej Brzozowski, et ce que pouvait en dire le générique de fin, c'est-à-dire que le film avait été produit dans un studio de films éducatifs à Łódź, dont je ne savais pas grand-chose.
Est-ce qu'on peut parler d'Andrzej Brzozowski, du coup, et finalement de son travail avant Archéologia ? Comment il en est venu à placer l'Holocauste, finalement, au centre de sa recherche cinématographique ?
Lorsque j'ai vu ce film pour la première fois, donc en 2010, c'est vrai que j'ai été très frappée par la forme, puisqu'il n'y a aucun mot. Et Andrzej Brzozowski, on n'avait pas grand-chose sur lui. On savait juste qu'il avait... C'est un cinéaste assez mineur, finalement, de l'histoire du cinéma par rapport à d'autres cinéastes qui avaient fait des longs-métrages de fiction. Mineur parce qu'il s'était interrogé sur des questions peut-être scientifiques, historiques, qui à l'époque n'étaient pas centrales. Et surtout, il le faisait dans des formes très courtes. Donc en s'attaquant à des films scientifiques et pédagogiques. Et donc, je me suis moi-même demandé comment ce sujet de l'Holocauste avait surgi dans son œuvre. Et c'est en faisant des recherches au studio des films éducatifs de Łódź que j'ai compris qu'en fait, Archéologie était un des films dans lequel il développait cette proposition, mais il y en avait d'autres courts-métrages et d'autres films où il s'attaquait de manière non frontale à cette question, à ce sujet.
Parlons du point de départ de ce documentaire de 14 minutes dont on voit des extraits dans votre documentaire à vous, Sous la Terre. J'ai malheureusement pas pu le voir en entier et c'est à grand regret parce que ça m'a rendu extrêmement curieux.
Vous pourrez le revoir sur Histoire TV.
Je pourrais le revoir sur Histoire TV, mais ce documentaire que j'ai pas pu voir en entier, Archéologia, parce que le vôtre, je l'ai vu en entier, hein, Sous la Terre. J'ai travaillé quand même. non mais Archéologia, comment on peut définir cet objet, le point de départ, parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est un cinéaste qui motive la première et encore à ce jour dernière fouille archéologique réalisée à Auschwitz.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est parce que c'était pas un film auquel ce court-métrage, donc Archéologie, qui était disponible. On clique pas Archéologie et on a le film tout à coup en ligne. C'était un film un peu oublié, je dirais, dont il n'existait pas de restauration. Et donc l'objet de mon film Sous la Terre, ça a été de déployer en quelque sorte ce film, de le comprendre, à la fois ses conditions de production, comment est-ce qu'on a pu autoriser en 1967 de faire un tel film, mais surtout ce que j'ai découvert. Alors, je ne sais pas si je devrais le dire d'emblée, parce que c'est vraiment tout l'objet du film Sous la Terre, c'est que l'idée de faire des fouilles n'était pas une idée d'archéologue, ce n'était pas une idée scientifique, mais c'était une idée de cinéaste. C'est parce qu'il avait envie de convoquer des archéologues sur ce site que ce film a été possible.
Alain Schnapp, dans l'histoire de l'archéologie, est-ce que c'est quelque chose d'unique, le fait que, justement, le cinéma motive la réalisation de fouilles dans un site aussi important dans l'histoire récente que l'est celui d'Auschwitz-Birkenau?
C'est évidemment quelque chose d'assez rare. Mais il y a, ne serait-ce que penser aux pyramides d'Égypte, penser aux grands sites, la curiosité s'est éveillée avec le cinéma de certains d'entre eux et a permis de créer des genres différents, le genre du film scientifique, le genre du péplum, etc. Et cette découverte ou redécouverte de Brodowski est formidable parce qu'elle montre la tension extrême qui peut surgir de la volonté de représenter le passé à travers un processus vivant qui est le dégagement de la fouille. Et la fouille, c'est une série d'actes et qui isole une part de l'espace et qui tente de le définir le plus souvent en profondeur, mais pas seulement, ça peut être aussi des stratigraphies horizontales, comme on dit. Et donc, cet outil, il a été mis au point à la fin du 19e siècle, et il est devenu vraiment opérationnel dans la première moitié du 20e siècle. Donc, voir qu'un archéologue polonais, un pays dans lequel l'archéologie a joué un rôle très important, très important pour la reconstruction de l'histoire polonaise, et pour l'émancipation, les Polonais devaient s'émanciper de deux traditions dominantes, celle germanique et la tradition russe puis soviétique. Et donc ça explique probablement le fait que dans les pays de l'Est, l'un des pays les plus développés en matière d'archéologie était la Pologne. Quand je dis développé, c'est que en Pologne, on avait des systèmes d'interrogation de l'espace, d'exploration des strates, d'archivage et de mise en valeur des données qui n'existaient à ce moment-là guère en France et même en Italie. En Angleterre, en Allemagne, c'était un peu différent.
Et tout ça est très bien représenté dans le film de Brodowski, Ania Szczepanska. C'est un film vraiment scientifique où on voit les archéologues à l'œuvre. Peut-être que vous pourriez nous décrire ces 14 minutes. Mm-hmm. En résumé, qu'est-ce qu'on voit à l'écran?
Comme le disait Alain Schnapp, on montre les différentes étapes, puisqu'il y avait à l'époque, dans ce studio des films éducatifs, beaucoup de films qui essayaient d'expliquer les sciences, un peu comme ce que vous faites, mais à l'image, c'est-à-dire d'expliquer comment une pensée fonctionne et comment une pratique fonctionne par rapport à des questions qu'on se pose et de manière disciplinaire, c'est-à-dire comment fonctionne qu'est-ce que c'est l'archéologie. Donc on voit des gens marcher sur de l'herbe, regarder dans le sol, regarder l'herbe, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent. Et puis petit à petit, on les voit toucher le sol et, comme vous dites, déployer ces strates avec, au montage, des plans de ces 10 mètres sur 10 mètres, 4 espaces qui sont identifiés. Et au fur et à mesure de ces 14 minutes, on voit des objets apparaître, qui sont montrés et qui sont nommés également dans différentes langues, qui sont les différentes langues aussi qui fonctionnaient au musée d'Auschwitz à l'époque. Et donc on voit un morceau de domino, par exemple, on voit un morceau de papier, un petit bout de une pièce qui venait du ghetto de Hutsch, justement Litzmannstadt. Donc on voit ces objets, leurs noms. Et le visage des archéologues qui observent de manière très attentive la forme de ces objets. Mais aucune parole pour nous aider à comprendre d'où viennent ces objets et ce qu'ils peuvent nous raconter dans leur historicité.
C'est ça qui m'a intrigué dans ce documentaire Archéologia, c'est le fait que ce soit sans parole, ça nous montre des choses, mais ça occulte aussi certaines choses, ça place un filtre scientifique sur un espace qui est absolument pas banal. Que nous dit et ne nous dit pas Brojowski dans ce film Archéologia de 67?
Ça, c'est une bonne question. C'est toujours qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on laisse hors champ. Le film donc nous montre ce travail d'archéologue. On voit qu'il y a beaucoup d'objets, puisque ces objets tout à coup deviennent une masse. Donc on comprend que de quelques objets qui nous sont montrés en gros plan, que ces objets appartiennent à des ensembles beaucoup plus vastes. Et à la fin, on apprend seulement le nom des personnes qui ont participé à ces fouilles et le lieu. C'est-à-dire le lieu exact, près des crématoires 2 et 3, c'est tout. Mmh. Et donc, à partir de ces indices, moi, je vois ça comme des indices visuels, mais aussi des indices qu'il faut savoir ensuite déchiffrer. Donc, il ne nous dit pas exact, il ne nous dit pas dans ce film-là à qui ont appartenu ces objets. Il ne nous dit pas pourquoi ils se sont retrouvés là.
Il ne dit pas que c'était essentiellement des juifs aussi qui ont été assassinés.
Et il ne dit pas que ce sont des objets qui ont appartenu à des juifs. Donc c'est à nous, en quelque sorte, de... C'est pour ça que ce film est très puissant. C'est parce qu'il pose énormément de questions dont il faut s'emparer et auxquelles il faut répondre.
Alain Schnapp, quand vous avez vu le documentaire Sous la Terre d'Anya Szczepanska qui rend compte de ce film Archéologa, est-ce que... vous avez retrouvé une image fidèle de ce qu'est une fouille archéologique, parce que Jerzy Krupa, qui est l'archéologue qui a été sollicité par Brojowski pour son documentaire, semble se plaindre un petit peu des ordres que lui donnait le cinéaste dans la réalisation de sa fouille et de la confrontation finalement entre un film et la méthode scientifique de l'archéologue. Vous, en tant qu'archéologue, quand vous regardez ces fouilles de 67, quelle sensation vous retrouvez de votre travail à vous ?
Bien, elle est familière. On fouille à ce moment-là. Dans une grande partie de l'Europe, en carré. C'est carré avec des bermes, c'est-à-dire un réticule qui conserve en place les strates au fur et à mesure qu'on descend. Donc le système permet à la fois une topographie stratigraphique et de rendre dans les parois la succession. Donc on voit les archéologues avec minutie installer leur système. Le quadrillage, c'est ce qui fait la fouille professionnelle. Et c'est un moment, les années 60, où justement la question d'ensemble est posée aux archéologues, parce que la tradition des grands chantiers, ceux de l'Égypte, ceux de l'Italie et ceux de la Grèce, avait fait que on ne fouillait pas de cette manière. On dégageait plutôt. Mmh. Le dégagement, et à un certain moment dans le film, quelqu'un demande à l'archéologue de ramasser. Il dit non, on ne ramasse pas. On regarde les choses en place et seulement après on peut bouger. Donc c'est la question du relevé. L'archéologue, c'est un mot d'André Leroy-Gourhan, le meilleur préhistorien de sa génération, il disait, est le seul des praticiens des sciences humaines qui détruit sa documentation en même temps qu'il la constitue. Mmh. Hein? Et c'est un des problèmes. Et vous trouvez, puisqu'on est dans le monde slave, vous trouvez la même réflexion littéraire dans l'extraordinaire roman de Dombrowski, de Yuri Dombrowski, le conservateur des antiquités, où il dit quelque part, les archéologues enregistrent un maximum de choses parce qu'ils prétendent ne rien perdre de la documentation qu'ils observent. Et dans les faits, ils n'y arrivent jamais. Donc il y a un côté un peu dérisoire dans la volonté de complétude, dans la volonté d'archivage systémique que propose la fouille. Et ce document illustre bien, le film de Brojowski illustre bien la situation de l'archéologie au moment où il est opérationnel. Et les interviews qu'Anya a menées ensuite, celles du couple Krupa, mm-hmm. le montre, le révèle de façon extrêmement lisible.
On va parler de cette documentation et de ces objets, bien sûr, qui ont été découverts lors de la fouille réalisée pour ce tournage du film Archéologuère en 1967. Et pour cela, je vous propose qu'on écoute un extrait de votre film Ania Szczepanska, Sous la Terre.
Au moment où je pensais avoir compris le dispositif d'Archéologia, je tombe sur cette liste. Inventaire des objets trouvés lors de fouilles archéologiques sur le terrain du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, dans la région des crématoires 2 et 3, octobre et novembre 1967. Ordre alphabétique. Agrafe 2. Crème d'après-rasage 1. Ampoule pharmaceutique 15. Armature hydraulique 1. Bakélite, fragment, 3. Batterie de l'homme de poche, 25. 438 catégories d'objets, de fragments d'objets. Total 16 470. Pour réaliser une liste aussi vertigineuse, il faut de la minutie, de la persévérance, de l'obsession. Il faut un véritable esprit archéologique. Cette liste, c'est l'archéologue Jerzy Krupe qui l'a écrite.
Ania Szczepanska, Jerzy Krupe, c'est cet archéologue donc qu'on voit dans des extraits du film Archéologia, qui est un vieux monsieur que vous rencontrez dans le cadre de votre documentaire, un vieux monsieur pas facile à manœuvrer, puisqu'il est assez réticent à répondre à vos questions. Et il a établi patiemment cette liste. Que nous dit cette liste et comment vous réagissez en tant que documentariste quand vous tombez dessus dans le cadre de ce travail d'enquête?
Alors Alain Schnapp parlait tout à l'heure de la documentation des fouilles archéologiques. Moi, en tant qu'historienne du cinéma, je travaille aussi sur les archives des films. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce moment de jonction entre les fouilles et le cinéma. Puisque cette liste dont vous avez entendu un extrait, je l'ai trouvée dans le grand dossier du film, au studio des films éducatifs. C'est-à-dire, ça faisait partie de la documentation du film. Alors vous me direz, est-ce que c'est si important ? Eh bien oui, parce que ça montre aussi que le cinéaste a voulu conserver pour l'histoire de son film une trace donc de cette liste. Et cette liste, elle m'a évidemment, comme beaucoup de listes, mais cette liste m'a particulièrement fascinée parce que elle est d'abord dans l'ordre alphabétique, ce qui est toujours un peu, enfin pourquoi pas, c'est un ordre parmi d'autres. Elle montre l'extrême minutie avec laquelle l'archéologue a traité ces objets après le tournage, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de participer à un tournage, mais ensuite il a étudié aussi ces objets. Et évidemment, chacune de ces lignes et de ces objets pose d'autres questions. Et c'est avec ces questions que je suis allée le voir à l'Institut d'archéologie de Varsovie. J'étais évidemment extrêmement heureuse de savoir qu'il était encore vivant et disposé à parler de cette histoire.
Alors ces objets aussi, quand on écoute cet extrait, on se rend compte de leur dimension à la fois banale, très intime, très sensible. C'est des objets, Alain Schnapp, qui ne relèvent pas du trésor, comme on peut y penser en tant qu'archéologue. Vous, quand vous voyez cette liste-là, comment vous pensez déjà au travail scientifique qu'on pourrait fournir sur ces objets retrouvés à Auschwitz-Birkenau?
Toutes ces listes sont liées à l'apparition de ce que nous appelons l'archéologie quantitative. C'est-à-dire l'archéologie qui cherche à documenter l'ensemble des données présentes sur un site et non pas d'en faire une sélection entre les objets qui méritent d'être conservés et ceux qu'on va rejeter. C'est un des problèmes majeurs, par exemple dans les études céramiques, parce que chaque société laisse des millions de tessons. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on doit jeter? Et donc ça pose la question de la relation entre le terrain et les objets. Les objets faisaient déjà partie de la culture des antiquaires européens, de ceux qui, depuis l'Antiquité gréco-romaine, égyptienne ou mésopotamienne, s'intéressaient au passé. Les antiquaires, par définition, le faisaient. Et donc, on croit souvent que l'archéologie, elle est née toute seule au XIXe siècle, au début du XXe siècle. C'est bien plus compliqué que cela. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'ont réalisé les archéologues polonais dans cette fouille d'Auschwitz, c'est qu'ils ont gardé l'ensemble des données en essayant, et Ania le disait il y a un instant, en essayant de faire que chaque objet soit égal à l'autre. C'est ça le privilège de l'approche alphabétique, en quelque sorte. Ensuite, évidemment, ce n'est pas la même chose de dégager un dé à coudre et de dégager ce qui reste d'une blague à tabac ou un bijou très intime qu'on voit apparaître ou réapparaître. Donc, la force du travail de l'archéologue a été d'extraire ces objets et de les préparer à être publiés, ce qui fait partie de la tâche majeure de l'archéologue, pour être accessible. Mais en quelque sorte, le temps lui a manqué. Et ce qui explique un peu... Enfin, je pense que ce n'est pas seulement le temps qui manquait, c'était aussi la capacité de gérer tout cela. Et ce qu'Anya a découvert, c'est que on ne savait rien de cette fouille, mais qu'on pouvait la reconstituer à travers les images du film et à travers ces archives qui étaient déposées à l'époque à l'Institut d'archéologie et non pas au musée. Alors ça sonne, Institut d'archéologie, musée, ça sonne comme tout à fait simple, mais non. Le pôle muséal et le pôle recherche, qu'on retrouve dans toute opération de fouille, doit se conjuguer, parce que sinon, l'un tire à lui tout ce qui peut intéresser l'autre. Et dans le cas présent découvert par Anya, c'est que les objets eux-mêmes n'avaient pas été préparés pour leur accessibilité. Et c'est ce processus de recomposition, de retour à la vie que nous présente le documentaire d'Anya.
Anya Szczepanska, ça c'est quelque chose aussi de très intéressant dans ce documentaire Sous la Terre, c'est que on découvre que ces objets, c'est découvert, donc 16 470 objets découverts dans 10 mètres carrés de terrain, rappelons-le, ont été comme éclipsés. Ils ont connu une période d'ombre, ils sont restés dans l'ombre pendant des décennies dans les collections de l'Institut archéologique de Varsovie. Avec cette idée, peut-être que Jerzy Krupa voulait travailler dessus, voulait publier dessus, et pourtant il ne l'a pas fait. Vous, comment vous avez interprété cette éclipse-là de ces objets ?
Alors, on peut l'interpréter de différentes manières. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on peut relier ce travail archéologique avec ce deuxième pôle qui est le musée d'Auschwitz. Parce que pendant que je faisais ce film, le directeur du musée, Piotr Tsivinski, et la conservatrice en chef, Elżbieta Zeiser, a mené également son enquête et a trouvé ces cartons à l'Institut d'archéologie. Et donc, ce qui m'a intéressé dans mon film, c'est de montrer, en quelque sorte, le processus de restitution au musée.
Parce que le musée demandait à Jerzy Krupa dans les années 70 à envoyer beaucoup de lettres à Jerzy Krupa pour lui dire confiez-nous ces objets-là. Et lui, mariner un petit peu.
Oui, comme tout archéologue, j'allais dire. On en parlait tout à l'heure avec Alain Schnapp. Apparemment, c'est quelque chose d'assez courant, cette volonté de garder pour étudier. Et pendant 5 ans, en effet, le directeur du musée de l'époque a tenté de convaincre l'archéologue de lui rendre ces objets. Jerzy Krupa considérait qu'il n'avait pas encore fini son travail. Et là, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est-à-dire qu'en faisant cela, il a aussi, en quelque sorte, protégé ses collections. Certes, dans des conditions très contestables pour les conservateurs et conservatrices d'aujourd'hui. Mais désormais, ces collections sont ces objets sans valeur. En tout cas économiques, font partie des collections du musée et constituent 10% des collections du musée d'Auschwitz.
Ils ont été restitués en 2016. Dans votre documentaire, Anya Szczepanska, on voit donc Jerzy Krupa, cet archéologue, et son épouse, Martina Krupa, qui elle-même est archéologue, et elle dit que c'est une sage décision de ne plus déterrer les objets que contient le sol d'Auschwitz-Birkenau, même si c'est facile de les trouver. Et elle dit, je la cite, « Cette terre, dans son état actuel, cette glaise, est un témoin de l'histoire. Il ne faut pas y renoncer, ça doit rester ainsi. » Et Alain Schnapp, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce documentaire Sous la Terre d'Anya Szczepanska, c'est cette question énorme qui se pose, quelle archéologie de la Shoah faut-il faire? Et quel est l'état du débat aujourd'hui sur cette question-là? Comment faire une archéologie de cette guerre, de ces massacres, de ce génocide? Où en sommes-nous de cette question-là?
C'est un problème fondamental parce qu'il complique un peu le travail archéologique. Ce qu'on appelle l'archéologie, dans le mot même archéologie, vous avez arché, l'ancienneté, le début, eh bien, c'est que on travaille sur des objets distants dans le temps, parfois même dans l'espace. Et donc, le travail archéologique n'interfère pas directement avec les sociétés actuelles et vivantes. Encore que l'archéologie coloniale n'ait pas respecté les droits et les précautions des populations natives à protéger, exploiter leur archéologie. Et donc, Lacan, Martina pose la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de fouiller à Auschwitz? La réponse est, c'est une question de problématique. Comment faire? Il est toujours possible de fouiller ici ou là. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Et dans quel respect vis-à-vis, là on a les traces, de personnes qui ont été déplacées puis exterminées? Qu'est-ce qu'on fait à leur mémoire quand on va, en quelque sorte, déranger l'ordre des couches et l'ordre de stratification des objets? Parce que c'est ça qui est important pour l'archéologie.
Parce qu'en plus, ces objets émergent littéralement de la terre. Il suffit de se pencher pour en ramasser presque. C'est tragique.
La position de l'archéologue, c'est d'être à genoux. Ça, il n'y a pas de débat pour dégager avec la truelle ou avec d'autres objets. Mais la question de l'archéologie du temps présent, c'est une question qui commence à émerger dans les années 80. Et au départ, les institutions archéologiques dans le monde refusent en disant « Mais non, on sait assez de choses pour le monde contemporain. Il y a des sources écrites, il y a des sources vidéo, il y a d'autres. On n'a pas besoin de fouiller. » Et on s'aperçoit que la fouille, comme vous l'avez repéré là, apporte des éléments nouveaux. Et donc les institutions se veulent aujourd'hui plus attentives. Mais la question fondamentale qu'elles posent, c'est est-ce que la fouille va apporter un supplément? Et est-ce que ce supplément n'agresse pas les populations qui ont vécu dans l'endroit qu'on explore ou qui sont liées à cet endroit par des liens culturels ou matériels? Et donc, la grande question du 21e siècle, on entend parler avec toute la question des restitutions, c'est de doter la pratique archéologique d'une éthique. Et dans cette éthique, il y a respecter les objets qui sont dans le sol, mais aussi les mettre à la disposition des autres. Et là, le couple Krupp a pratiqué une rétention, mais cette rétention, je le disais à Anya, je la trouve dans des dizaines, dans des centaines d'autres fouilles dans lesquelles les archéologues disent toujours « On va vous rendre les objets, mais laissez-nous le temps de les étudier. » Et puis parfois, ce temps se termine avec leur vie matérielle.
Anya Szczepanska, ces objets qu'on voit dans le film, donc non seulement dans le documentaire, mais après, entre les mains des restauratrices et restaurateurs du musée d'Auschwitz, quelle est leur existence actuelle? Comment circulent-ils? Quel est leur statut, concrètement?
Ce qui m'a fasciné, c'est le changement de statut de ces objets, justement, depuis l'avant-guerre jusqu'à aujourd'hui, finalement, sur un temps beaucoup plus long que simplement celui de la guerre, puis de leur découverte. Et leur changement de statut, évidemment, à partir du moment où ils rentrent dans des collections de musées, ils ont une autre valeur économique aussi, une valeur mémorielle. Peut-être c'est pour cette raison que ce film, j'ai voulu en faire un film, c'est de voir comment l'archéologie peut dialoguer et peut s'adresser à nous aussi, au-delà peut-être des spécialistes de l'archéologie, mais comment tout à coup elle peut provoquer des émotions, poser des questions et rapprocher peut-être des temporalités. Rapprocher, ça ne veut pas dire les aplatir. Ça veut dire au contraire les faire dialoguer, nous rapprocher d'un temps passé de manière peut-être plus intense et par l'émotion aussi et par la question de l'authenticité matérielle.
En tout cas, ce pari est réussi. Vous pouvez donc voir ce documentaire passionnant Sous la Terre sur la chaîne Historia TV, et j'espère bientôt partout. Merci beaucoup Anya Szczepanska, et merci Alain Schnapp, et merci à Christine Bernard de France Culture qui a attiré mon attention sur ce très beau documentaire Sous la Terre. Notre exploration du passé touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Ludovic Auger, aujourd'hui à la technique, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.